Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique, que vous pouvez également écouter en podcast. Maya Candel est notre invitée, chercheuse indépendante associée à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, historienne spécialiste de la politique étrangère des États-Unis et de la transformation de la droite américaine. Son dernier livre, Une première histoire du Trumpisme, paru chez Gallimard. Bonjour Maya Candel.
Bonjour.
Le Trumpisme apparaît comme le phénomène politique majeur du premier quart du XXIe siècle. Il est né de la rencontre entre un personnage hors norme, Donald Trump, héritier, entrepreneur et star de la télé-réalité, quelques idées fortes et un socle électoral républicain en recomposition, particulièrement après la présidence de George W. Bush et les années de guerre en Irak et en Afghanistan. Donald Trump bouleverse les codes du parti républicain, secoue les institutions américaines et influence bien au-delà des frontières des États-Unis. Il transforme le paysage politique américain entre populisme, nationalisme, rejet des élites, quoique polarisation extrême et guerre contre les médias. Le Trumpisme réunit autour de lui chrétiens évangélistes, idéologues nationaux conservateurs, masculinistes et titans de la tech. Il entend détruire l'ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être important pour commencer, Maya Candel, c'est de repréciser ce qu'est le Trumpisme. Mais est-ce qu'on peut dire, avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, que le Trumpisme n'est ni une parenthèse, ni une anomalie et qu'il s'est imposé comme une force politique durable et dominante ?
Oui, je crois que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Hein. C'est une première histoire du Trumpisme, parce que bien sûr, c'est un phénomène, un mouvement politique qui est encore, dont l'histoire est encore en train de s'écrire. Mmh. Mais je crois qu'il y a déjà aujourd'hui une profondeur historique et ça me paraissait important aussi tout simplement d'apporter des éléments, d'aider à la compréhension de ce phénomène qui est vraiment le phénomène politique majeur de notre époque. Donc le Trumpisme, effectivement, moi je le définis comme un mouvement politique, la rencontre entre un homme, un personnage hors norme, mmh. Donald Trump, ses quelques intuitions politiques et idées fortes, et puis un socle électoral qui témoigne de la transformation profonde des États-Unis. Je crois que c'est vraiment un point que j'ai voulu aussi développer dans le livre, c'est montrer à quel point les États-Unis aujourd'hui, en 2025, sont un pays complètement différent de ce qu'ils étaient au tournant à la fin du siècle dernier. Et les attentats du 11 septembre 2001 ont vraiment eu un impact profond là-dessus. Quand Trump a été élu pour la première fois en 2016, son élection a vraiment surpris beaucoup de gens. Et pendant les 4 ans de son premier mandat, on s'est beaucoup demandé si c'était une anomalie, une exception. 2016, c'était aussi l'année du Brexit, une année des outsiders. Donc il y avait vraiment cette réflexion-là. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce retour spectaculaire en 2024, non seulement on voit que ce n'est pas une exception, mais je dirais au-delà de ça, on peut parler aujourd'hui d'une ère Trump des États-Unis, au sens où il a non seulement profondément transformé son parti, le Parti républicain, également le Parti démocrate, hein, par contre-coup, mais il a aussi transformer la politique intérieure, la politique étrangère des États-Unis. C'est un point qui est vraiment au cœur du Trumpisme dès l'origine. Et puis, on a aujourd'hui aux États-Unis deux partis dont les socles électoraux sont profondément transformés. Et ça, on le voit, en fait, c'est vrai que Trump perd en 2020, mais de 2016 à 2020, il élargit son socle électoral. Il y a 11 millions de personnes supplémentaires qui votent pour lui. Et là, aujourd'hui, en 2024, à nouveau, il a élargi son socle électoral et quand on regarde les votes, sans faire une analyse trop détaillée, mais on a vraiment une progression des électeurs de Trump, du Parti républicain, chez les électeurs les moins fortunés, chez les électeurs les moins diplômés, alors que de 2020 à 2024, le Parti démocrate ne progresse que chez les plus diplômés et dans des enclaves vraiment parmi les plus riches des États-Unis. Donc, ce que Trump affirmait en 2016, il entendait faire du Parti républicain le parti des travailleurs, des classes moyennes et populaires, et renvoyer le Parti démocrate à un statut de parti des élites. C'est vraiment une grande partie de son propos. En réalité, si on regarde les votes en 2024, c'est un peu ce qui se dessine, effectivement.
Alors, ce qui va m'intéresser, Maya Kandel, c'est que vous nous décriviez un petit peu les États-Unis aujourd'hui. Vous dites que les États-Unis ont beaucoup changé et que, précisément, c'est là-dessus que Donald Trump a pu surfer sur la vague. Un élément intéressant, je le disais en introduction, quand Trump arrive à la Maison-Blanche en 2016, et vous le soulignez dans votre ouvrage, Une première histoire du Trumpisme, l'Amérique sort de 15 années de guerre. Cela a beaucoup joué, Maya Kandel.
Oui, je crois que c'est un aspect absolument essentiel. En 2016, les États-Unis sont un pays en guerre depuis 15 ans. Il y a des dizaines de milliers de soldats démobilisés qui reviennent d'Irak, d'Afghanistan. Et alors, il y a eu toute une série de conséquences de ces guerres. Ça accentue des tendances qui étaient déjà à l'œuvre, la polarisation politique. Ça accentue aussi des divisions très nette dans la population. Mais au-delà de ça, on se souvient beaucoup à l'étranger, ici en France, ailleurs dans le monde, on se souvient des mensonges de Bush pour justifier la guerre en Irak. Mais en réalité, Bush et son équipe, Bush et les néoconservateurs, ont aussi avant tout menti à leur propre peuple. Et ça, il y a un moment vraiment charnière lors des primaires 2016 où personne ne prend encore la candidature de Trump au sérieux au début des primaires. Il y a beaucoup de gens en face. Il y a notamment le frère de Bush, Jeb Bush, qui est le gouverneur de Floride et qui est à ce moment-là le favori de l'establishment du Parti républicain. Et dans un débat début février 2016, Trump s'adresse à ce frère de Bush et il émet la critique la plus féroce des guerres déclenchées par Bush. Il condamne les mensonges, il parle d'erreurs monstrueuses, de cadeaux à l'Iran. Et c'est vraiment un moment de basculement à l'époque. Et je crois que c'est depuis le début un élément essentiel. En plus, cette année 2016, c'est aussi l'année où, dans les primaires démocrates, on a Bernie Sanders, qui, jusqu'au bout, est vraiment un challenge à Hillary Clinton. Et Bernie Sanders, c'est celui qui avait au départ ce slogan de mettre fin aux guerres sans fin, que Donald Trump reprend à son compte. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, on le voit encore aujourd'hui avec son vice-président, J.D. Vance, il y a beaucoup d'anciens combattants de ces guerres dans son administration actuelle. Et c'est quelque chose qui est à la fois très important pour comprendre son succès dans certaines catégories de l'électorat républicain, chez les anciens militaires notamment, mais précise aussi cette vision du monde et de la politique étrangère qu'on retrouve dans son administration actuelle.
Donc on peut dire par ailleurs que Donald Trump a finalement débarrassé le Parti républicain des néo-conservateurs, qui étaient donc ces va-t-en-guerre et qui ont poussé à l'intervention des États-Unis à la fois en Irak et en Afghanistan. Quel est le degré de mainmise aujourd'hui de Donald Trump sur le Parti républicain, Maya Kandel ?
Alors, il a d'abord une mainmise sur le parti qui vient du fait que, évidemment, le Trump et les élus républicains partagent le même électorat. Et Trump a été celui qui a permis cet élargissement du socle électoral républicain de 2016 à 2020, puis à 2024. Donc, voilà, il y a déjà cette dimension-là. Et puis, il y a une dimension, pourquoi on parle de Trumpisme, c'est le Trump hein, dans ce isme. Il y a eu un moment entre 2021 et 2023 où beaucoup de gens au sein du Parti républicain, dans les élites conservatrices, ont essayé de proposer un Trumpisme sans Trump. C'était notamment l'appui à la candidature de Ron DeSantis. Ça n'a pas marché parce que l'incarnation est essentielle et il n'y a que Trump qui arrive, qui parvient à mobiliser ses électeurs, notamment les électeurs des primaires républicaines, ceux qui font beaucoup les futurs élus au Congrès, qui comptent dans les districts et qui comptent bien sûr dans les primaires pour la présidentielle. Donc il y a cet aspect-là, mais après, il y a aussi tout simplement le fait que dès son premier mandat, Trump et sa famille, ses fils en particulier, travaillent à mettre la main sur les instances du parti, à la fois les instances nationales, fédérales, financières, et puis sur l'appareil du parti dans les États. Donc il y a un effort qui est très, très construit dès le départ. Et Trump, c'est aussi une formidable machine à lever de l'argent. Alors, il a parfois utilisé ses fonds pour financer ses procès ou d'autres choses. Mais l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre électorale. Aux États-Unis, les sommes dépensées sont faramineuses. Et ce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez récent, depuis quelques mois, c'est Trump et ses proches, des gens qui étaient dans la campagne 2024, mettre la main, y compris sur les comités qui sont décisifs pour les élections au Congrès. Donc, il a vraiment la main sur les instances du parti, sur les financements. Et puis, il y a cette, encore une fois, cette dimension. Alors, certains parlent d'une dimension un peu secte ou culte dans son ascendant sur le parti. Mais voilà, le fait est que c'est extrêmement périlleux pour un homme politique aujourd'hui de contredire Trump. On a vu des reconversions idéologiques spectaculaires. Hein. Marco Rubio est un exemple. Il y en a d'autres. Et donc, voilà, il a cette aura. C'est lui qui tient. Il a le charisme qui délivre des résultats pour le Parti républicain aujourd'hui.
Et l'argent qui va avec, en particulier. Alors, Maya Kandel, vous avez décrit le trumpisme comme un mouvement politique. C'est aussi un mouvement idéologique. Et j'aimerais bien que vous nous en disiez quelque chose. Et à ce stade, il y a un institut dont vous parlez dans votre ouvrage, un think tank, qui est l'Institut Claremont, qui se trouve en Californie. Parlez-nous de cet institut et de son influence, peut-être, sur l'idéologie du trumpisme aujourd'hui.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un aspect très important, c'est que Trump, c'est un showman, voilà, il a toute cette expérience de la télé-réalité, des médias, de Twitter, il se met en scène. Donc il donne aux masses un peu ce spectacle du trumpisme, qu'on a vu beaucoup dans ses meetings, dans ses rassemblements de campagne, mais effectivement, il y a dès l'origine, derrière lui, des idéologues qui ont cherché à théoriser les quelques idées fortes de Trump pour coller à ce nouveau socle électoral, en réalité, que Trump a mobilisé et qui fait gagner le Parti républicain, qu'il a fait gagner en 2016 et en 2024. Et il faut se souvenir qu'en 2016, quand Trump fait campagne, tous les conservateurs, les intellectuels conservateurs, la plupart, et notamment ceux qui travaillent dans les centres de réflexion, les think tanks à Washington, notamment ceux qui travaillent sur la politique étrangère, rejettent Trump, et il y a des centaines d'entre eux qui signent une lettre pour dire « Never Trump », c'est les « Never Trumpers », on les appelle, voilà. Et donc, il y a vraiment un bloc de tout l'establishment de politique étrangère républicain, qui est encore dominé par les néoconservateurs à l'époque, contre Trump. Et il y a une exception à ça, qui est, pendant l'été 2016, et surtout juste avant, donc en septembre 2016, avant l'élection de Trump, un centre de réflexion, l'Institut Claremont, donc en Californie, et ses intellectuels associés, signent d'abord une lettre de soutien à Trump, puis un article vraiment retentissant, avec une dimension un peu apocalyptique, il faut voter pour Trump ou sinon le pays va s'effondrer, etc. Et donc c'est cet institut. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il a été formé par une branche dissidente des néoconservateurs. Donc parce qu'on parle des néoconservateurs de la côte Est et des néoconservateurs de la côte Ouest, qui donc sont allés s'installer à Claremont, c'est une petite ville charmante de Californie à côté de Los Angeles, et ont fondé cet institut. Et leur mot d'ordre, c'est de revenir aux principes des pères fondateurs du pays, des États-Unis. Et en fait, Trump, du coup, quand il fait sa première administration, il va puiser d'abord dans ce vivier, il va recruter l'auteur de cette lettre de soutien, Michael Anton, qui aujourd'hui est le directeur de la planification au département d'État, donc un rôle important en politique étrangère. Il était dans le Conseil de sécurité nationale de première présidence Trump. Il va par ailleurs reprendre aussi des éléments de langage, certaines obsessions de cet institut, et il va jusqu'à donner la médaille d'honneur à son président en 2019, son président Ryan Williams, donc en 2019, une médaille qui est allée à des prix Nobel de littérature ou d'autres personnes extrêmement importantes. Donc cet institut joue un rôle très important, et ce qui est intéressant, alors moi il se trouve que j'avais fait un séjour d'études dans la ville de Claremont, avec l'université, il y a une université dans cette ville également. Et donc, j'ai vu leurs efforts à eux et à d'autres gens associés. Ils jouent un rôle moteur dans la formation d'un nouveau mouvement qui va accompagner le trumpisme. Ce que j'appelle un peu les intellectuels du trumpisme, les idéologues en réalité du trumpisme, qui créent ce mouvement national conservateur en 2019. Ils créent donc... C'est les États-Unis, donc ils créent un think tank, une fondation, c'est la fondation Edmund Burke, grand penseur contre la Révolution française. Hein, ce n'est pas un hasard, il y a une dimension vraiment contre la modernité chez ces penseurs aussi. Et en l'espace de quelques années, ce mouvement, donc, auquel l'Institut Claremont est associé dès l'origine, joue un rôle très important à l'origine, ce mouvement va progressivement agréger d'autres centres, d'autres tendances de la droite jusqu'à l'extrême droite américaine, jusqu'à rallier le poids lourd des fournisseurs d'administration républicaine, qui est la Fondation Heritage. La Fondation Heritage a été créée dans les années 70, mais elle était déjà derrière le programme de Reagan quand il a été élu en 1980. Et c'est la Fondation Heritage qui publie en fin 2023 ce fameux projet 2025, qui est en quelque sorte le document programmatique de l'administration Trump actuelle. On retrouve beaucoup des auteurs de ce texte et beaucoup des mesures dans les premiers mois de cette deuxième administration Trump.
Ce sera intéressant de revenir sur les questions d'idéologie et puis ce retour que vous évoquiez au père fondateur et au passé finalement. Et dans MAGA, Make America Great Again, on peut y voir une sorte de promesse paradoxale tournée vers le passé. On en parle dans quelques instants. On parlait de l'argent dans les campagnes électorales et justement James Brown, le titre que nous venons d'entendre de Payback. Maya Kandel, vous êtes notre invitée pour votre livre Une première histoire du Trumpisme. plein de choses sur lesquelles j'aimerais qu'on revienne. Les questions peut-être, alors, oui, d'idéologie. Vous faisiez référence au père fondateur et ce besoin chez les Trumpistes de revenir au passé. Make America Great Again, finalement, ce n'est rien d'autre qu'une promesse paradoxale tournée vers le passé. Et vous évoquiez ces intellectuels qui, aujourd'hui, au sein de l'Institut Claremont, qui finalement ont beaucoup travaillé sur les idées à proposer à Trump. J'ai cette question, est-ce que Trump a encore le contrôle sur toutes ces idées qui sont mises en application? Est-ce qu'il comprend bien tout ce qui est en train de se passer, Maya Kandel?
Alors, le contrôle, non, je ne pense pas que Trump, ce n'est pas un intellectuel. Ce n'est certainement pas quelqu'un qui a lu le projet 2025. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut bien voir aujourd'hui le Trumpisme est d'une certaine manière plus grand que Trump. En plus, il y a des nouveaux membres dans sa coalition victorieuse de 2024. Donc voilà. Mais un élément moteur de la première victoire de Trump, c'est le poids des évangéliques. Donc le poids de la religion. Et c'est vraiment quelque chose... Trump se fait le défenseur des chrétiens persécutés, porte-voix du nationalisme chrétien. Donc ça, c'est quelque chose qui est très présent dès sa première campagne, à nouveau en 2020, à nouveau en 2024. Donc, et cette place de la religion, elle est notamment théorisée par ces penseurs nationaux conservateurs et toute la galaxie qui les accompagne, qui pensent qu'une grande partie des problèmes de la société américaine aujourd'hui vient justement d'avoir perdu la religion, tous les problèmes... Par exemple, J.D. Vance, c'est quelqu'un qui est très obsédé par la famille, l'importance de la famille traditionnelle, revendique beaucoup son catholicisme. Il y a une grande place des intellectuels catholiques, conservateurs. Donc, il y a cette dimension sur la famille. Il y a la dimension nationaliste, bien sûr. Donc là, c'est toute cette réflexion aussi que Trump porte également sur l'identité américaine, sur le rapport au monde. Ce sont des choses qui sont présentes dès le départ. Et puis, il y a aussi des éléments qui sont intéressants dans ces réflexions du mouvement national conservateur. Il y a toute la réflexion sur l'économie, notamment, la volonté de revenir aussi sur la mondialisation néolibérale, parce que Trump fait une campagne, sa première campagne, et jusqu'à aujourd'hui, il est contre les néoconservateurs et contre le néolibéralisme. Il y a vraiment cette idée qu'à un moment, la mondialisation néolibérale a fait beaucoup de mal aux États-Unis, que toutes ces classes moyennes et populaires, les États de la Rust Belt, la ceinture de rouille, qui ont basculé côté Trump, qui votait démocrate avant, ont perdu leur fierté, le moyen de gagner leur vie parce que les emplois sont partis en Chine ou ailleurs. Et donc, il y a aussi une réflexion là-dessus avec des éléments intéressants sur... alors, on en voit certains aspects dans les droits de douane, même s'il y a toujours l'élément perturbateur, disons, dans toutes ces constructions intellectuelles, pour revenir à votre question, l'élément perturbateur, c'est toujours Trump. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui, soudain, va faire un tweet ou une déclaration. Trump, il y a un seul mot qu'il résume, c'est « deal ». C'est quelqu'un qui veut faire des accords. C'est pas quelqu'un qui a une vision du monde ou de la société très construite. Donc, s'il y a moyen de faire un accord avec l'Iran, bah, l'Iran n'est plus l'empire du mal, devient un potentiel partenaire. Avec la Russie, il veut faire des accords. Il veut faire des accords avec tout le monde, même avec la Chine. On a beaucoup dit, bon, bah, y a une ligne directrice, c'est la position anti-Chine. On va voir, mais c'était très marqué dans le premier mandat. Mais dans le premier mandat, il y a d'autres gens qui avaient la main sur la politique étrangère. Dans le second mandat, là, on a l'impression quand même que c'est vraiment Trump qui tient les rênes.
Alors, de cela, on va parler. Je pensais le laisser un tout petit peu plus tard parce qu'évidemment, il y a plein de questions. Vous évoquiez la notion de religion. Finalement, évangélique et catholique sont partie prenante dans cette machine trumpienne qui s'est mise en marche aux États-Unis. Au-delà de ça, il y a trois personnalités sur lesquelles j'aimerais qu'on passe un peu de temps. Il y a d'abord Steve Bannon. Quel est son rôle dans tout cela? Elon Musk, qui a fini par quitter le gouvernement Trump. Et puis, ce personnage de la Silicon Valley, en la personne de Peter Thiel, qui est parmi les plus influents à Washington, entrepreneur donc de la Silicon Valley, qui a interprété la victoire de Trump comme une apocalypse au sens religieux du terme. Maya Kandel.
Il y a une chose qu'on dit souvent aux États-Unis, c'est un petit raccourci, mais c'est de dire les évangéliques apportent les voix et les catholiques apportent les idées. Il y a vraiment des bastions intellectuels catholiques aux États-Unis dans les grandes universités. Et il y a un mouvement de conversion des républicains, notamment des hommes politiques républicains depuis 20 à 25 ans, qui est très frappant. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs 6 juges à la Cour suprême aujourd'hui qui sont catholiques. Donc voilà, ça c'est un élément intéressant. Sur Steve Bannon, c'est vraiment l'artisan de la victoire en 2016. Donc c'est pour ça que je reviens beaucoup sur son rôle dans le livre. Et puis c'est aussi quelqu'un, alors certes il avait été écarté de la Maison Blanche en 2018, mais en fait d'abord il était parti en Europe, créer des liens qui existent toujours avec un certain nombre de partis de droite et d'extrême droite en Europe. Et puis surtout c'est quelqu'un qui est revenu aux États-Unis en 2019, qui a créé un podcast, parce que comme Trump, il sait anticiper les évolutions médiatiques, après avoir dirigé Breitbart News, qui était cette publication majeure d'extrême droite. Donc, il a créé un podcast qui est toujours parmi les 10 podcasts les plus écoutés aux États-Unis, qu'il a été pendant toutes ces 5-6 dernières années. Et c'est comme ça aussi qu'il est revenu en grâce auprès de Trump. Bannon, c'est quelqu'un qui a une carrière multiforme. Il a fait l'armée, il a travaillé à Wall Street, il a une expérience dans le jeu vidéo, dans la production de films. Donc, c'est vraiment un personnage comme ça, avec une carrière kaléidoscopique. Mais c'est d'une part quelqu'un qui réfléchit et qui a un peu théorisé pour Trump, qu'il rencontre en 2011. Il rencontre Trump en 2011. Il voit l'émergence du mouvement Tea Party qui annonce un peu Trump, qui est ce mouvement qui s'élève contre Obama, mais qui a déjà des caractéristiques du trumpisme, qui est très isolationniste, qui est anti-libre-échange, etc. Et Bannon perçoit ça, rencontre Trump en 2011, il lui dit qu'il est un populiste et il théorise un peu pour lui ce national-populisme qui est encore en gestation. Bannon, c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il y a un moment populiste dans le monde et que c'est le moment de participer à l'avènement un peu d'une nouvelle élite, une contre-élite qu'on voit aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs aux commandes à Washington. Donc Bannon est compagnon de route dès l'origine et le lien un peu avec la base électorale, les fantassins MAGA, c'est comme ça qu'il les appelle, ses auditeurs, etc. Musk, c'est intéressant parce que Elon Musk, c'était le plus visible d'un phénomène politique majeure aussi de ces deux, trois dernières années, qui a été le ralliement d'un certain nombre de milliardaires, de riches investisseurs, chefs d'entreprise de la Silicon Valley au Parti républicain et donc à Trump. Et je dis d'abord au Parti républicain parce que, par exemple, Elon Musk a d'abord été pour tous les autres candidats qui n'étaient pas Trump. Il a soutenu la candidature de Ron DeSantis, il s'est intéressé à Vivek Ramaswamy. Et en fait, Musk se rallie vraiment à Trump quand Trump remporte les primaires. C'est un point commun avec d'autres de ces titans de la tech, dont certains sont dans l'administration aujourd'hui. David Sachs, par exemple, autre milliardaire. Et ce qui est important là-dedans, et c'est très, très bien résumé, symbolisé par Peter Thiel, qui est le troisième que vous mentionniez. Peter Thiel, c'est particulier. Donc, c'est un des fondateurs de PayPal, le moyen de paiement sur Internet. Surtout le fondateur de Palantir, qui aujourd'hui est une société de surveillance, ciblage, qui travaille extrêmement inséré au sein du gouvernement américain, mais qui travaille aussi, par exemple, pour le gouvernement israélien ou le gouvernement japonais, qui fait du ciblage de drones, etc. Thiel, c'était l'exception en 2016. C'était le seul milliardaire, la seule personnalité de la Silicon Valley qui soutenait Trump. Il est allé parler à la convention qui couronnait Trump. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intellectuel que des gens comme Musk, qui a vraiment une solide formation classique, une pensée très réactionnaire et qui a toujours financé des causes ultra-conservatrices ou traditionnalistes ou réactionnaires. Et on retrouve d'ailleurs, Thiel, derrière le financement des premières conférences du mouvement national conservateur dont on parlait tout à l'heure. Il finance aussi des publications. Voilà, c'est quelqu'un qui est très présent dans cet écosystème conservateur à Washington. Et qui, effectivement, a une pensée... alors, bon, ici, beaucoup René Girard, par exemple.
Le français qui a enseigné à Stanford.
À Stanford, voilà, qui est un peu l'université d'élite de la Silicon Valley et d'un certain nombre de ses compagnons de route du trumpisme qui ont un discours anti-université, anti-élite, etc., alors qu'eux-mêmes sont passés par ces meilleures universités américaines.
Et on l'a bien compris, l'argent est quelque chose qui a vraiment son importance. On s'intéressera à la redéfinition du rapport américain au monde qui est au cœur, finalement, du trumpisme. Et puis, ce que vous évoquiez, Maya Kandel, les liens avec les partis de droite dans le monde et peut-être particulièrement en Europe. Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy worked the furnaces, kept them hotter than hell. I come home from now, I'm working my way to Scarford, a job that suits the devil as well. They'll attack and I cook and limestone, fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard's just scrap and rubble. He said them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were dying for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, the story's always the same. 700 tons of metal a day, now sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell.
Géopolitique avec Marie-France Chatin sur RFI.
Youngstown de Bruce Springsteen, qui était en tournée en France cette semaine. Maya Kandel, au cœur du trumpisme, la redéfinition du rapport américain au monde. Qu'est-ce que l'on peut dire du plan de Trump en politique étrangère? Et vous l'avez évoqué un peu plus tôt dans l'émission, les liens avec la droite, voire l'extrême droite en Europe. On sent une sorte d'international du trumpisme aujourd'hui, Maya Gandel.
Alors peut-être d'abord revenir effectivement sur cette question du rapport au monde, parce que c'est vraiment au cœur du trumpisme dès l'origine. Et je disais tout à l'heure, Trump n'est pas un intellectuel, quelqu'un qui a forcément une vision construite, mais ses idées fortes, les plus anciennes, vraiment, portent sur justement la politique commerciale, en l'occurrence, et le rapport avec les alliés. Trump, c'est quelqu'un qui a envisagé une candidature à la présidentielle dès 1987. Il y a eu d'autres moments, en 2000, en 2008, en 2011, etc. Mais voilà, en 1987, il publie une lettre ouverte au peuple américain dans 3 quotidiens nationaux. Dans cette lettre, il s'en prend aux alliés ingrats, aux partenaires, aux alliés ingrats qui profitent des États-Unis. Donc, il y a toujours cette obsession. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est en 1987, il s'en prend avant tout au Japon, qui est vraiment, c'est une époque où on pense que le Japon va supplanter les États-Unis. Il s'en prend aussi à l'Arabie Saoudite et il ne parle pas des Européens. Mais voilà, il y a cette idée d'alliés qui profitent. Il parle du déficit commercial, du fait que les États-Unis subventionnent la défense de pays riches. Donc ça, c'est vraiment des obsessions anciennes chez lui. L'obsession du déficit commercial, je crois que c'est le côté businessman aussi. Voilà, l'Europe arrive en 2000, il fait un autre livre. Bon, il a écrit une vingtaine de écrits ou
fait écrire.
Écrire une vingtaine de livres qui ont quasiment tous été des best-sellers d'ailleurs. En 2000, il écrit un livre programmatique. Il envisage à nouveau de se présenter. Et là, pour la première fois, il a des passages sur les millions que les États-Unis pourraient économiser s'ils sortaient de l'OTAN. Et donc là, on bascule un peu plus sur l'Europe. Et bien sûr, donc en 2016, il y a ces deux autres aspects qui sont centraux dans sa candidature, le rejet des guerres de Bush dont on parlait, et bien sûr l'obsession de l'immigration, mais qui finalement est l'aspect le plus récent chez lui. Ça fait quelques années qu'il a vu le succès de ses tweets sur l'immigration. Il commence vraiment à tweeter en 2010-2011. Et il y a le mouvement Tea Party, qui est aussi un mouvement raciste contre Obama, qui est le premier président noir et qui vient d'être élu. Et donc il reprend cette idée de l'immigration, mais ce qui est amusant, c'est que Bannon, qui le conseille, et d'autres, Roger Stone, qui sont autour de lui, essayent toujours de le faire parler davantage de l'immigration. Et c'est eux qui soufflent l'idée du mur en se disant, bah, tiens, c'est un promoteur, si on parle de construire un mur, ça va peut-être coller, on va pouvoir lui faire parler davantage d'immigration. Trump, il préfère parler du commerce, du déficit commercial, des alliés ingrats, etc. Donc il y a vraiment cette dimension-là qui est centrale. Mais au-delà, je pense que Trump, aujourd'hui, même si on arrive, si on fait une avance rapide à aujourd'hui, il y a vraiment un nouveau consensus, double consensus à Washington. C'est-à-dire que Trump, en 2016, signale en fait la fin de ce soutien politique bipartisan aux États-Unis, au rôle des États-Unis, rôle de soutien de l'ordre international que les États-Unis ont construit après la Seconde Guerre mondiale. Donc les institutions internationales, le multilatéralisme qui fait fonctionner tout ça. Et aujourd'hui, il y a d'une part l'idée que cet ordre n'est plus bénéfique pour les États-Unis. Ça, c'est très présent chez Trump, même l'idée qu'il est désormais contre-productif pour les États-Unis. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'assez partagé à Washington, dans les deux parties, côté démocrate et républicain, sur l'idée de dire, voilà, on n'est plus ni dans la guerre froide, ni dans l'après-guerre froide. On est dans un monde multipolaire. Les États-Unis sont moins puissants relativement. S'ils veulent quand même rester la première puissance, il faut arrêter d'être le gendarme du monde, ce qu'on appelle le gendarme du monde, souvent en France. Et donc, il y a un rejet de tout ça. L'Europe, elle occupe une place centrale là-dedans, pour deux raisons. Les grandes phases de la politique étrangère américaine, depuis l'origine, depuis la fondation du pays, si on regarde, c'est toujours les grandes évolutions correspondent toujours à des évolutions du rapport de force entre les États-Unis et l'Europe, hein, que ce soit la doctrine Monroe, Première et Seconde Guerre mondiale, etc. Et pendant toute la période de la guerre froide et l'après-guerre froide, il y a vraiment cette idée que l'OTAN, l'Alliance transatlantique, c'est la pierre angulaire de l'engagement international du pays. Je cite parce que c'est l'expression qui est dans tous les documents stratégiques. Et aujourd'hui, on a le sentiment vraiment qu'on sort de cette période. Et même, on a vu Trump, déjà dans son premier mandat, maintenant dans le second, dire que l'Union européenne est un adversaire des États-Unis, qu'elle profite des États-Unis. Et cette position très anti-Union européenne, parce que ce n'est pas forcément une position anti-européenne, c'est plus subtil que ça, mais cette position anti-UE, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez Steve Bannon dès l'origine, qu'on retrouve chez Elon Musk au début, plus récemment. Et en fait, je crois qu'il y a une dimension fondamentale qui les réunit tous les quatre, c'est une position qui est contre le pouvoir commercial et réglementaire de l'Union européenne. Trump préfère dealer avec des pays individuels qui sont
bilatéral.
Moins puissants en bilatéral.
Mais on le voit, ce soutien. J'étais récemment à Bucarest pour les élections. Trump avait dépêché son Monsieur Trump sur le Groenland pour venir suivre le scrutin. On sent bien ce soutien apporté par Donald Trump au parti particulièrement nationaliste en Union européenne, avec cette volonté finalement de... Alors, l'Union européenne en tant que telle, c'est haro sur l'Union européenne en tant que telle, mais en revanche, des intérêts à... je reprends cette idée d'international et d'exportation du trumpisme en Europe, Maya Candel.
Oui, alors il y a une caractéristique qui est vraiment propre à Trump, c'est que Trump a tendance à confondre les relations bilatérales entre les États-Unis et un autre pays avec ses relations personnelles avec les dirigeants de ces pays. Donc, par exemple, quand il s'entend bien avec Poutine, les États-Unis et la Russie ont une bonne relation, etc. Donc ça, c'est vraiment propre à Trump. Et donc, évidemment, il adore Orban, il préfère gérer avec des dirigeants nationalistes qui partagent ses vues. Après, derrière, il y a aussi un effort plus construit. Steve Bannon, quand il arpente l'Europe en 2018-2019, il veut aider les partis qu'on appelle alors populistes, en fait, les partis d'extrême droite européens, parce que ces partis sont anti-Bruxelles, contre l'Union européenne. Il veut augmenter leur poids au Parlement européen. Et le fantasme, si on veut, c'est celui du Brexit. Il aimerait bien que d'autres pays quittent l'Union européenne, comme l'a fait le Royaume-Uni. Et bon, en même temps, on voit dans un des accords commerciaux, le premier accord négocié, ça a été avec le Royaume-Uni. Et les Anglais ont cédé sur beaucoup de choses parce qu'évidemment, ils sont moins puissants seuls face aux États-Unis qui ont obtenu d'autres concessions dans d'autres domaines en négociant cet accord. Donc, il y a cette volonté-là. Ensuite, il y a le renfort de Musk parce que Musk, Zuckerberg, eux, qu'est-ce qui les embête? C'est les réglementations sur les big tech, c'est le DSA, c'est toutes ces mesures qui ont été prises au niveau européen récemment. Donc, il y a une offensive coordonnée, une proximité idéologique. C'est vrai que Bannon a établi des liens à ce moment-là qui existent encore. Et puis, je parlais au début du mouvement national conservateur, de ses conférences nationales conservatrices. Dès 2019, donc la première est organisée à Washington, mais on a tout de suite une qui suit, qui est organisée à Rome. Il y en a eu deux à Londres, il y en a eu à Bruxelles. Et dans ces conférences, qui sont en fait des espèces de ça dure 2-3 jours, les leaders se rencontrent, ils établissent des liens. Par exemple, en avril 2024, Éric Zemmour a fait un discours très remarqué à la Conférence nationale conservatrice à Bruxelles. Et l'été d'après, donc l'été 2024, Sarah Knafow a été invitée à suivre une formation à l'Institut Clermont, compagne et élue du Parlement européen. Et on l'a vu juste après reprendre des éléments de langage que moi j'associe complètement à cette mouvance sur la liberté d'expression avec des codes très américains, mais qui de plus en plus s'exportent en Europe. On voit réellement, hein, depuis quelques années, une importation de ce qu'on appelle les guerres culturelles, les conflits idéologiques américains, que ce soit sur l'école, sur la liberté d'expression. On les voit se transposer en Europe. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a des liens entre tous ces gens-là.
Pour en revenir aux États-Unis, Maya Kandel, est-ce que, d'après vous, le trumpisme menace la démocratie américaine?
Alors ça, c'est sans doute la question la plus complexe. Par exemple, les républicains, la confiance des républicains, des électeurs républicains dans la démocratie est revenue à la hausse de manière spectaculaire depuis l'élection de Trump. Un an avant, une majorité ne croyait plus que les États-Unis étaient démocratiques. Évidemment, si on va demander aux électeurs démocrates, c'est plutôt l'inverse. Aujourd'hui, les États-Unis sont encore une démocratie. Il y a même d'ailleurs beaucoup de divisions, des débats très, très vifs entre conservateurs sur certaines mesures de Trump. Il y a des gens qui contestent, très à droite, hein, qui contestent la manière dont il a fait arrêter certains étudiants pour des tribunes pro-palestiniennes, le fait d'avoir expulsé des immigrants qui étaient là de manière légale, sans aucune forme de processus légal. Donc voilà, il y a des débats. Mais là où il y a, je crois, une vraie question, mais c'est une question d'un peu plus long terme, c'est que une inspiration du mouvement national conservateur, des idéologues derrière Trump, c'est en particulier ce qu'a fait Viktor Orban en Hongrie et la manière dont il a pris la main sur les médias, la justice, l'éducation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Hongrie a toujours des élections libres, évidemment, mais le champ des possibles en termes de débats, en termes de candidats, etc., s'est réduit. Et donc, il y a cette question, Trump semble être en train de faire ça aussi aux États-Unis, d'appliquer cette espèce de mode d'emploi d'Orban, pour attaquer les universités en s'en prenant à leur financement, à leur capacité d'accueillir des étudiants internationaux. Il a lancé beaucoup de procédures contre des médias. Alors, il a obtenu 10 millions, 15 millions de grands médias qui ont courbé les chines. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. Évidemment, pour des grandes chaînes, elles peuvent trouver ces sommes. Pour d'autres publications, c'est beaucoup plus difficile. Il y a d'ailleurs, par ailleurs, un écosystème médiatique conservateur qui domine de manière écrasante l'espace médiatique aux États-Unis. Hein. Steve Bannon lui-même le dit, donc c'est, je crois que ce n'est pas un scoop. La justice, pour l'instant, la résistance à certains abus. Hein, il y a des décisions de Trump qui clairement contredisent le premier amendement. La résistance vient plutôt des juges, mais on sait qu'il y a une Cour suprême qui est quand même ultra-conservatrice, qui veut défendre son statut, mais qui a quand même accordé une immunité totale au président, avec une formulation un peu ambiguë qui fait qu'effectivement, on peut se demander ce qu'elle laissera faire ou pas à Trump. Et puis au-delà, je crois qu'il y a dans toute cette mouvance intellectuelle et politique, il y a aussi toute une théorisation du pouvoir exécutif qui contredit pour moi les principes des pères fondateurs, justement, mais qui est portée par ces instituts qui prétendent défendre les États-Unis des origines. Donc.
Merci Maya Kandel pour cet entretien absolument passionnant. Je rappelle que vous êtes chercheuse indépendante associée à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, historienne spécialiste de la politique étrangère des États-Unis et de la transformation de la droite américaine. Et votre dernier livre, Une première histoire du trumpisme, paru chez Gallimard. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo, Mathias Golchani à la réalisation. Vous êtes bien sur RFI. Dans quelques instants, RFI Soir, mais tout de suite le journal.